pas des rétros, Ananas.
Je suis désolé, je comprends pas.
Attends, je t'explique.
Sur Radio Chablais.
Ah, bah c'est tout de suite beaucoup plus clair.
Nous sommes de retour avec Noémie Causandet. Elle est pédagogue équin. Elle travaille à terre, à poney, à baie. Pour elle, les poneys, bah, c'est un animal puissant. Hein, un animal puissant qui peut peser jusqu'à 150 kilos, même fastoche. On dirait pas comme ça, hein, mais qui vit en troupeau. Il a l'instinct grégaire, comme on dit. C'est donc un animal qui a besoin de ses semblables. C'est un animal sensible, intelligent, qui au sein d'un troupeau peut se voir attribuer un rôle social, comme celui de guide. Tu me disais hors micro, Noémie, que c'est souvent des juments un peu plus âgés qui prennent le lead. Mais ça peut être aussi plutôt le côté sécurité qui surveille, ou encore le jeune clown qui amuse la galerie. Et finalement, les chevaux, ben, les poneys comme les chevaux, peuvent dormir couchés, complètement reposés, couchés avec la tête relevée ou alors debout, justement ben, pour pouvoir prévenir à la base les attaques de prédateurs. Tu me disais tout à l'heure que les animaux ont un rôle social, mais comment est-ce que ça se fait après? Comment est-ce que ça se construit, la relation plutôt, avec les êtres humains? Parce que là, j'imagine que le rôle change ou pas?
Non, nous, on va prendre ce rôle de leader pour plusieurs raisons. Parce qu'on est déjà dans un monde d'humains, et on a la responsabilité de ce qui est dangereux dans la rue ou pas. Et donc on est obligé de prendre cette position de leader rien que pour cette première raison-là. La deuxième, c'est qu'on est quand même vachement plus petit et puis vachement plus fragile. Donc on a besoin de pouvoir prendre ce lead. Mais nous, on parle de leader amical, mais puis pas de juste chef.
Dominant. Dresseur.
Exactement.
Oui, parce que toi, en fait, dans la technique que tu utilises, en fait, ce que tu cherches, c'est ce que vous recherchez dans votre technique, c'est de créer un lien, de tisser un vrai lien avec le cheval, plutôt que de dire fais ci, fais ça, bâton carotte finalement.
Exactement. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'on apprenne à ce que le cheval y participe avec nous par plaisir et qu'il puisse réfléchir dans tout ce qu'on va faire avec lui. Donc, en fait, on veut pas qu'il soit un robot. On veut qu'il participe à la séance autant que nous, on participe à la séance, rien que pour que ce soit intéressant pour lui, pour pas qu'il s'ennuie.
Et comment est-ce qu'on arrive à ça? Parce que j'imagine que, pour prendre l'expression d'un autre équidé, on peut pas forcer un âne qui ne veut pas boire, qui n'a pas soif. Mais là, comment est-ce qu'on arrive à dire, ok, viens dans mon monde et puis fais ce que je te demande de faire, s'il te plaît? Comment est-ce qu'on arrive à ça?
Alors, c'est amusant, mais c'est plutôt nous qui allons rentrer dans son monde.
Ok.
Parce que on va apprendre à communiquer avec lui, mais dans son langage. Parce que lui, son langage, c'est le langage corporel, principalement. Il peut pas apprendre comme nous d'autres langues. Il peut associer certains mots comme à table, quand j'amène les gamelles. mais grosso modo, il peut pas apprendre complètement un langage comme nous on le fait. Donc c'est à nous de nous adapter, à nous d'apprendre sa langue. Et dès le moment où on va apprendre son langage, en fait, ça va être intéressant pour lui de nous écouter. Puis de faire des trucs avec nous.
Donc d'une fois qu'on arrive à créer déjà ce lien, on va dire le simple fait de faire l'effort, tu me diras si je me trompe, hein, d'ailleurs je pose la question, est-ce que le simple fait de faire l'effort de parler son langage crée déjà ce lien et puis ça suffit pour que notre cher ami équidé nous suive?
Je pense qu'il y a un petit peu de ça quand même, parce que par exemple j'ai un nouveau cheval dans mon école depuis pas longtemps, puis c'est amusant, mais à chaque fois ils ont la même réaction, c'est « Oh mon Dieu, mais vous parlez cheval ici ? Oh, comme ça a l'air intéressant !» On voit une réaction comme s'ils sont intrigués en fait, et ça les amène à trouver plaisir dans ce qu'on va faire.
Ah donc vraiment, tu, parce qu'en plus les chevaux, je crois savoir que c'est le deuxième animal qui exprime le plus à travers les faciès, mmh. Plus que les chiens et moins que les chats qui expriment encore plus, mmh. Sauf erreur, c'est ça, hein, donc le cheval va exprimer beaucoup par son visage, encore plus que le chien.
Alors oui, sur son visage on voit beaucoup de choses, on voit aussi, il utilise tout son corps, hein, la queue va énormément parler aussi, mais sur le visage on voit vite si le cheval est crispé, tendu, détendu, etc. Donc oui, on va pouvoir le voir, nous on va apprendre surtout sur les choses les plus visibles aux enfants, parce que j'ai une grande partie de ma clientèle qui sont des enfants, le but c'est comment on peut leur apprendre à eux dans leur langage, dans ce qu'ils sont capables de comprendre, mais par exemple rien que les oreilles vont déjà nous donner une grosse information s'il dit oui ou non.
Un exemple peut-être, il faudrait qu'elle soit dans quelle position les oreilles pour qu'ils disent plutôt oui?
Plutôt en position neutre, droite ou alors vraiment assez relevée. Et si elles sont complètement en arrière, c'est que en fait, mais plaquées contre la crinière, là c'est que c'est un gros non et qu'on a plutôt intérêt à faire un pas en arrière, quoi.
Ah oui, parce que même les poneys, tu me disais que tout à l'heure en micro, tu l'as déjà dans le micro, mais que c'est un animal puissant, mais qu'il peut développer deux fois sa force. Donc un animal de 150 kilos peut développer une force de 300 kilos sous le coup d'adrénaline.
Exactement, oui, ça peut être énorme. Ils ont vraiment cette boule de muscle qui peut être prête à exploser si on arrive dans ce moment de l'adrénaline. L'adrénaline, ça peut être dans la colère ou dans la peur. Donc nous, on va plutôt éviter de le mettre en colère, de respecter son non catégorique pour voir, ok, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre, qu'est-ce qui joue pas en fait.
Et qu'est-ce que tu leur montres aux enfants? Qu'est-ce qu'ils apprennent les enfants qui viennent chez toi justement?
Ben, on apprend à lire le cheval. Première chose qu'on apprend, c'est ben, comment on va se saluer. C'est ce qu'on fait dans un atelier découverte, c'est comment on va lui dire bonjour dans son langage, puis comment on va pouvoir comprendre s'il est d'accord ou pas déjà de faire avec nous la séance, etc. C'est souvent le cas qu'ils sont d'accord. Mais c'est important pour nous de leur apprendre à, s'ils voient un cheval dans la rue, enfin dans la rue ou dans un parc en se promenant avec leurs parents, s'ils font sentir leurs mains comme on leur apprend, et puis qu'il y a une réaction négative du cheval qui ne veut pas, ben, qu'ils sachent exactement quoi faire. C'est universel pour tous les chevaux, en fait, ce qu'on leur apprend.
Et puis comment on dit bonjour à un cheval?
Ils se sentent le bout du nez.
Oui, ils se sentent le bout du nez.
Ils se sentent le bout du nez. Nous, on va pas mettre notre nez devant lui, hein, parce que si on le connaît pas, c'est un petit peu dangereux quand même.
Ouais.
Mais on va mettre notre main vraiment devant les narines pour vraiment faire sentir notre odeur. Puis ils peuvent reconnaître n'importe qui avec leur odeur.
Donc c'est un peu comme avec les chiens.
Oui.
Entre guillemets, on va montrer la main. On va montrer pas de blanche, jamais mieux dit, mais on va montrer la main en mode je suis copain. Tiens, c'est mon odeur. Du coup, c'est mon nom.
Exactement. Ils peuvent se souvenir de tout ce qu'ils ont fait vraiment avec cette odeur-là, en fait, avec cette personne.
Avec ce celui-ci qui a cette odeur-là, en fait.
Exactement, ouais, c'est ça.
J'adore. Et qu'est-ce qu'ils apprennent d'autre, les enfants? Est-ce qu'après, est-ce qu'ils montent les poneys, ou bien c'est simplement du travail depuis le sol ou...
Alors, on a trois niveaux de base d'abord à faire au sol. Puis ensuite, l'élève, il a le choix de monter ou de continuer à faire d'autres niveaux au sol. Nous, notre but, c'est qu'on remplisse comme une boîte à outils, ouais, avec tout plein de compétences, autant sociales, motrices, relationnelles avec le cheval, pour pouvoir être en sécurité physique et affective s'il veut monter dessus. On est dans une certaine vulnérabilité quand on est dessus, donc on a vraiment intérêt à pouvoir lui communiquer les choses calmement, dans son langage, et puis surtout pouvoir se sentir serein dessus, quoi.
C'est marrant parce que tu parles de sécurité physique et affective. Est-ce que c'est possible de dissocier l'affectif du cheval ?
Non, bien sûr que non, parce qu'on est face à autrui. Donc forcément, quand nous on affecte, et puis avec nous-mêmes, on va avoir forcément des fois des petits réajustements où on essaie un exercice, c'est difficile, et puis on commence à se fâcher. Ok, ben qu'est-ce qu'on peut faire ? Qu'est-ce qu'on peut faire pour redescendre la colère quand on n'arrive pas à un exercice ? Si on est dessus, qu'on commence à se fâcher, ça c'est même pas la peine d'y penser, parce que le cheval il va pas aimer du tout.
Ah bah oui, parce que le cheval il est sensible derrière.
Absolument, c'est juste.
Et puis qui c'est qui aimerait avoir quelqu'un sur le dos d'énervé ?
Absolument.
Donc en fait, ça tient de la logique finalement.
Exact. Et nous, on parle beaucoup de consentement.
Tiens.
Le consentement, c'est pour tout le monde, pour le cheval. Hein. On cherche son consentement, mais on veut aussi le consentement de l'enfant. Il y a beaucoup d'endroits où on met l'enfant sur le cheval, puis on se pose pas trop la question s'il en avait envie ou pas. C'est super important pour nous qu'ils nous disent, en fait, aujourd'hui, j'ai pas envie de monter dessus, puis on fait des trucs à côté. Et c'est tout à fait possible et normal dans notre petit monde de la pédagogie équine. C'est pas souvent mis en scène, en fait, et dans les médias, que l'humain, il est à côté du cheval. Souvent, on parle de cavalier qui est dessus, oui. Et puis il y a peu de choses qui sont médiatisées. Même Yakari, il est sur le dos du cheval. Donc, pour nous, c'est important de montrer qu'il y a plein de choses à faire à côté. Oui.
Mais il y a plein de choses. Et c'est vrai que c'est un animal qui est tellement chou. J'imagine que ça doit... Tu dis que c'est surtout des enfants, mais c'est pas pour rien, en fait. C'est des enfants ou alors des grands-enfants, un peu comme moi.
Ouais, par exemple, faut venir.
provoque-moi pas, parce que c'est vrai qu'il y a... J'ai un grand attachement surtout pour les ânes. Parce
okay,
que voilà, je trouve que c'est un animal qui en plus a son petit caractère et tout. Et ça, pour moi, c'est un peu le punk des chevaux. Et du coup, je le respecte énormément. Mais après, je connais pas suffisamment bien les chevaux pour savoir si les autres chevaux sont punk ou pas. Ils ont aussi leurs petits droits. Mais est-ce qu'il y a une vraie différence finalement entre un poney et un cheval?
Alors, entre un poney et un cheval, il n'y a pas de différence. Ils sont fabriqués pareil. La seule chose, c'est qu'on va définir qu'un poney, il fait jusqu'à 1m48. Puis en dessus d'1m48, c'est un cheval. Mais il n'y a aucune différence de fabrication en soi. Chez l'âne, c'est un peu différent. Ils n'ont pas vraiment le même langage. Moi, je ne parle pas l'âne, hein. Je parle le cheval.
D'accord, ok. Moi, je parle couramment l'âne, mais c'est pour d'autres raisons, c'est plus familial. Mais justement, à ce qui paraît, j'avais vu une fois un documentaire qui parlait de en fait, les chevaux, à la base, étaient de vachement plus petite taille, il y a des centaines de milliers d'années en arrière.
Oui, et puis ils marchaient aussi sur trois doigts. Maintenant, ils n'ont plus qu'un doigt dans leur sabot, mais avant, ils marchaient sur trois doigts. Ils étaient beaucoup plus petits. Le cheval de Prévacy était vraiment assez petit. Au fur et à mesure, il a
Quelle taille à peu près, ça veut dire vraiment petit? Mais plutôt dans la taille d'un chien, c'est ça, un truc dans ce goût-là?
Les tout premiers, ouais, c'était assez taille d'un chien. Et bon, la mienne, ma plus petite ponette, hein, qui fait 87 cm, elle fait des fois plus petit qu'un chien, des chiens qu'on a aujourd'hui, hein, comme les Doberman.
Par exemple.
Mais grosso modo, ils étaient quand même plus petits. Et maintenant, les plus grands chevaux, ils sont immenses. Ils peuvent faire presque jusqu'à 2 mètres, je crois. C'est complètement fou.
Et tes cours, ils sont ouverts à tout le monde?
Oui.
Ou est-ce qu'il y a un âge minimum ou un...
L'âge minimum, c'est plutôt les capacités minimum. On veut que dès la marche. En général, ça fait environ 18 mois.
Ouais.
Et puis après, il n'y a pas de limite d'âge. Il n'y a pas de limite de compétences non plus. On se veut vraiment inclusif. On accueille tout le monde. On va s'adapter à chaque élève, à chaque identité.
Et puis si, par exemple, on est d'origine mongole, est-ce qu'on a le droit de venir avant de marcher? Parce que je sais qu'en Mongolie, ils apprennent à monter à cheval gentiment avant de marcher dans les steppes. Est-ce qu'on a le droit ou pas? Je demande, au cas où il y a quelqu'un qui nous entend.
Ben, pas vraiment. Parce que nous, le but, c'est que l'enfant, il soit acteur de ce qu'il fait. S'il est juste porté et trimballé à gauche à droite, ça n'a aucun sens. Nous, on veut qu'il puisse agir.
Oh, c'est très joli. Bon, bah, merci infiniment. On va terminer sur cette magnifique parole. Noémie Cosandet, tu es pédagogue équin à Terre à Poney AB. Petit site internet, quelque chose?
Oui, écoleterreaponey.ch, tout collé.
Terreaponey.ch. Écoleterreaponey.ch. AB, merci infiniment d'être venu nous répondre, nous expliquer un petit peu ce que c'est le poney et ta passion. Je te souhaite une excellente soirée. À tout bientôt.
Merci beaucoup. Au revoir.